En gagnant mon pain, quatrième partie. C'est le printemps. Chaque journée se pare de vêtements neufs. Chaque journée nouvelle est plus lumineuse et plus douce que celle de la veille. Une odeur enivrante se dégage des jeunes plantes, de la fraîche verdure des bouleaux. La campagne m'attire irrésistiblement. J'aimerais à écouter l'alouette allongée sur le sol tiède. Et il faut que je nettoie les habits d'hiver, que j'aide à les plier dans les malles. Je découpe des feuilles de tabac, j'enlève la poussière des meubles, et du matin au soir, je suis absorbée par des choses qui me sont inutiles et désagréables. Aux heures de loisir, je n'ai littéralement rien qui m'intéresse. Notre vilaine rue est déserte, et on m'interdit de sortir. Dans la cour, il n'y a que des terrassiers irascibles et fatigués, des cuisinières et des blanchisseuses dépenaillées. Tous les soirs, ce sont des orgies infâmes. J'en suis dégoûtée et mortifiée au point que je voudrais perdre la vue. Je monte au grenier, après m'être pourvue de ciseaux et de papier de couleur. Je découpe des dessins très ajourés et j'en décore les solives. C'est un aliment pour mon ennui. Anxieusement, j'aimerais à me réfugier quelque part où l'on dormirait moins, où l'on se querellerait moins, où l'on n'importunerait pas Dieu de plaintes continuelles, où l'on ne condamnerait pas autrui avec tant de sévérité et de facilité. Le samedi saint, on amène en ville une image miraculeuse de la Vierge de Vladimir, qui est habituellement gardée au monastère d'Oran. Elle reste en ville jusqu'à la mi-juin et visite toutes les maisons, tous les appartements de chaque paroisse. Elle arriva chez mes patrons un matin pendant la semaine. J'étais à la cuisine et je polissais des casseroles de cuivre, lorsque la jeune femme, tout effarée, cria de sa chambre « Va ouvrir, on apporte Notre-Dame d'Oran !» Tout sale, les mains pleines de graisse et de briques pilées, je me précipitai à la porte d'entrée. J'ouvris. Un jeune moine, tenant d'une main une lanterne et de l'autre un encensoir, grommela à voix basse. « Vous êtes sourd? Vous ronflez encore? Aide-nous !» Deux citadins montaient les trois escaliers en portant une lourde statue sous un dais. Je leur aidais en soutenant de l'épaule et de mes mains maculées le bord du dais. Derrière nous piétinaient pesamment les moines qui chantaient à contre-cœur et d'une voix profonde « Sainte Mère de Dieu, priez pour nous !» Avec une mélancolique certitude, je me dis « Elle va s'irriter de ce que je la porte avec des mains aussi mal propres et mes bras vont se dessécher. » On posa la statue sur deux chaises couvertes d'un drap blanc dans un angle. De chaque côté du baldaquin se placèrent, pour la soutenir, deux moines, jeunes et beaux comme des anges, aux yeux rayonnants et clairs, aux cheveux abondants. La cérémonie religieuse se déroula. « Oh, mère de bonté !» chantait le prêtre d'une voix aiguë. Son doigt écarlate tâtait sans cesse le lobe gonflé de son oreille, caché sous de longues boucles. « Très sainte Mère de Dieu, ayez pitié de nous !» répétaient les moines fatigués. J'aimais la Vierge. D'après les récits de grand-mère, c'était elle qui semait sur la terre, pour la consolation du pauvre monde, toutes les fleurs, toutes les joies, tout ce qui était agréable et beau. Et lorsqu'il fallut lui baiser la main, sans regarder ce que faisaient les grandes personnes, plein d'émotion, j'embrassai l'icône au visage, sur les lèvres. Une main vigoureuse me jeta dans un coin. Je ne me rappelle pas comment les moines partirent en emportant la Vierge, mais je me souviens bien de mes patrons, qui, plantés autour de moi, toujours assis sur le plancher, discutaient avec inquiétude et une profonde terreur sur ce qui allait m'arriver. « Il faudra en parler avec le plus savant des prêtres, » décida le patron. Et il me gronda sans méchanceté. « Nigaud, tu ne sais donc pas qu'on ne doit pas embrasser sur les lèvres, toi qui as été à l'école. » Pendant quelques jours, j'attendis, très anxieux. J'avais pris le dais avec des mains sales, j'avais baisé la Vierge sur les lèvres. Tout cela, je devais sûrement le payer, je n'en pouvais douter. Mais il semblait que la Vierge avait pardonné ce péché involontaire, causé par un amour sincère. Ou bien sa punition fut-elle si légère que je ne la remarquais pas au milieu des châtiments continuels que m'infligeaient les bonnes gens. Parfois, pour mettre la vieille patronne en colère, je lui disais d'un ton pénétré « La Vierge, à ce qu'il paraît, a oublié de me punir. » « Attends un peu, » répondait-elle avec perfidie. « Tu n'as pas encore tout vu. » Tout en décorant les solives du grenier avec des bandes découpées de papier multicolore, de papier d'étain, de feuilles vertes, je chantonnais sur des airs religieux tout ce qui me passait par la tête, comme le font les kalmouks sur la grande route. Je suis assis au grenier avec les ciseaux en main. Je coupe et je découpe. Je m'ennuie. Si j'étais un petit chien, je courrais où je voudrais. Mais ici, chacun m'insulte. Tais-toi, galopin, tais-toi, sinon tu auras des coups. La vieille, en voyant mon œuvre, souriait et hochait la tête. Tu devrais bien nous décorer la cuisine de cette façon-là. Un matin, le patron monta au grenier. Il examina mes motifs de décoration, soupira et dit « Tu es amusant, Alexis, que le diable t'emporte. Qu'est-ce que tu deviendras? Un pitre? Un jongleur? Je ne saurais le deviner. » Il me donna une grande pièce de 5 kopecks en cuivre. Avec du fil de fer très mince, je fabriquai des crochets et je pendis la pièce, comme une médaille, au beau milieu de mes travaux bigarrés. Le lendemain, elle avait disparu, en même temps que les crochets, et je suis persuadée que c'est la vieille qui me l'a prise. Chapitre 8. Peu après, je résolus de fuir. Un matin, comme j'allais à la boutique pour chercher le pain du déjeuner, je trouvai l'épicier en train de se quereller avec sa femme. Il la frappa au front avec un poids. Elle courut jusqu'au trottoir où elle tomba. Aussitôt, les gens s'attroupèrent. On mit la femme dans une voiture, on la conduisit à l'hôpital. Je courus chercher un fiacre. Sans savoir comment, je me trouvai au bord de la Volga avec 4 kopecks pour toute fortune. Le jour printanier rayonnait gaiement. Le fleuve coulait, large et paresseux. Sur terre, tout me semblait vaste et bruyant. Et moi, j'avais vécu jusqu'alors comme une petite souris dans une cave. Je résolus de ne pas rentrer chez mes patrons et de ne pas aller non plus chez grand-mère à Kounavine. J'avais manqué à ma parole. J'aurais eu honte de la revoir. Et grand-père se serait moqué de moi avec sa malveillance habituelle. Pendant 2 ou 3 jours, je vagabondais sur la rive, me nourrissant près des portefaix, gens simples et amicaux, dormant avec eux sur les débarcadères. L'un d'eux me dit « Toi, mon petit, tu perds ton temps par ici, à ce qu'il me semble. Va-t'en donc sur le Dobry, ils ont besoin d'un plongeur. » Je suivis le conseil. Le restaurateur, un homme grand et barbu, coiffé d'une casquette de soie noire sans visière, me considéra à travers ses lunettes d'un œil trouble et me proposa à mi-voix. « 2 roubles par mois. Ton passeport ?» Je n'avais pas de papier. L'homme réfléchit et décida. « Amène ta mère. » Je courus chez grand-mère. Elle approuva ma décision et elle parvint à envoyer grand-père au bureau de l'état civil pour y demander un passeport. Elle m'accompagna au bateau. « Bien, » dit le restaurateur après nous avoir examinés. « Allons. » Il me conduisit à l'arrière où un énorme cuisinier en veste blanche, en calotte blanche, assis à une petite table, prenait le thé tout en fumant une épaisse cigarette. Le restaurateur me poussa vers lui. « Plongeur !» Et il s'en alla aussitôt. Le cuisinier souffla, hérissa ses moustaches noires et lui cria « Vous engagez n'importe qui, pourvu que ça coûte moins cher !» Rejetant en arrière sa grosse tête, couverte de cheveux noirs et courts, il écarquilla les yeux, s'étira, se gonfla et s'écria d'une voix sonore « Qui es-tu ?» Il ne me plaisait pas du tout. Malgré ses vêtements blancs, il avait l'air négligé. Sur ses doigts poussaient des poils et de longues touffes sortaient de ses grandes oreilles. « Je veux manger !» lui dis-je. Il cligna de l'œil et soudain, son air sévère fit place à un large sourire. Ses grosses joues hâlées montèrent en vagues vers ses oreilles, découvrant des dents de cheval. Ses moustaches tombèrent, il me fit penser à une bonne grosse commère. Lançant par-dessus bord le thé qui restait au fond de son verre, il m'en versa du frais et poussa vers moi un petit pain blanc avec un gros morceau de saucisse. « Bouffe ! As-tu des parents ? Sais-tu voler ? Va, n'aie pas peur, on te donnera des leçons. Ici, il n'y a que des voleurs. » Il parlait comme s'il aboyait. Son vaste visage, rasé de si près qu'il en était bleu, était tout strié de vénules rouges. Son gros nez écarlate tombait sur ses moustaches. Lourde et dédaigneuse, sa lèvre inférieure s'abaissait. Au coin de la bouche, la cigarette était collée et fumait. Sans doute venait-il de sortir du bain. Il sentait encore le savon. Une sueur abondante coulait sur ses tempes et sur son cou. Lorsque j'eus fini mon thé, il me donna un billet d'un rouble. « Tiens, va t'acheter deux tabliers à bavette. Attends, j'irai moi-même. » Rajustant son bonnet, il se mit en marche. Il se balançait pesamment et tâtait le pont du pied comme un ours. C'est la nuit. La lune brille et s'enfuit sur la gauche du bateau, dans les prés. Le vieux bateau roussâtre, à cheminée rayée d'une bande blanche, bat l'eau argentée au rythme inégal et espacé de son hélice. Les rivages sombres glissent sans bruit à sa rencontre et ombrent les vagues. Sur la berge, les fenêtres, les isbas rougeoient. Dans les campagnes, on chante. Les filles mènent des rondes et le refrain « Aïe, Liouli !» résonne à mes oreilles comme un alléluia. Suivant le bateau, attaché à une longue remorque, nage une barque rousse. Elle porte sur le pont une cage de fer où sont enfermés des prisonniers condamnés à la déportation et au bagne. À la proue brille comme un cierge la baïonnette d'une sentinelle. Dans le ciel bleu étincellent de petites étoiles. Sur la barque, tout est tranquille. Elle est inondée de clarté lunaire. Derrière le noir réseau de la cage, on voit vaguement des formes grises et rondes. Ce sont les prisonniers qui regardent le fleuve. L'eau sanglote. On ne sait si elle pleure ou si elle rit timidement. Tout me paraît solennel comme à l'église. On sent l'odeur de la cire aussi fort qu'au temple. Je regarde la barque et me rappelle ma petite enfance, le voyage d'Astrakhan à Nijni Novgorod, ma mère et ma grand-mère, et l'homme qui m'a conduit à cette vie de servitude, à la fois intéressante et pénible. Lorsque je pense à grand-mère, tout ce qui est mal et humiliant s'éloigne et se transforme. Tout me devient plus agréable. Les gens me semblent meilleurs et plus sympathiques. Je suis émue presque aux larmes par la beauté de la nuit. Émue aussi par cette barque qui ressemble à un cercueil et qui est si parfaitement inutile sur le vaste espace du fleuve débordant, dans la paix mystérieuse de la nuit tiède. La ligne sinueuse du rivage, qui tantôt s'élève, tantôt s'abaisse, inquiète agréablement mon cœur. J'ai envie d'être bon, d'être utile aux autres. Les gens sur notre bateau, jeunes et vieux, hommes et femmes, me paraissent se ressembler tous. Le bateau marche lentement, les gens pressés prennent les rapides, tandis que nous attirons seulement de paisibles oisifs. Du matin au soir, ils mangent, ils boivent, ils salissent une quantité de vaisselle, de couteaux, de fourchettes, de cuillères. Mon travail consiste à tout laver, à tout nettoyer, depuis 6 heures du matin jusqu'à minuit parfois. Le jour, entre 2 et 6 heures, et le soir, de 10 heures à minuit, j'ai moins de besogne. Les passagers, à ces moments-là, se reposent entre les repas et ne boivent que du thé, de la bière, de l'eau-de-vie. Ce sont les heures de liberté pour tout le personnel du restaurant, chefs et petits employés. Autour d'une table, le cuisinier Smouri prend le thé avec son aide Jacob Ivanitch, son garçon de cuisine, Maxime, et le sommelier des passagers de première, Sergueï, un bossu aux pommettes saillantes, au visage troué de taches de petites véroles, aux yeux huileux. Jacob Ivanitch raconte des saletés en riant d'un petit rire sarcastique qui montre ses dents vertes et pourries. Sergueï fend jusqu'aux oreilles sa bouche de crapaud. Le sombre Maxime se tait et les regarde sévèrement de ses yeux d'une couleur indéfinissable. Asiatique, sauvage, prononce de temps à autre le cuisinier de sa voix retentissante. Ces gens me déplaisent. Jacob Ivanitch, gros et chauve, ne parle que de femmes, et toujours d'une façon malpropre. Son plat visage est marqué de taches bleues. Sur une joue s'arrondit une verrue couverte de poils roux qu'il frise en pointe. Quand une passagère, d'allure engageante, monte à bord, il va et vient autour d'elle avec une sorte de crainte et de timidité, comme un mendiant. Il lui parle d'une voix plaintive et doucereuse, ses lèvres se mouillent d'une bave que lèche de temps à autre d'un mouvement rapide, sa langue répugnante. Sans savoir pourquoi, je me représente les bourreaux obèses comme cet homme. Il faut savoir enflammer les femmes, pontifie-t-il. Sergueï et Maxime l'écoutent avec attention. Ils s'empourprent et se gonflent. Asiatique, gronde dédaigneusement Smouri. Il se lève et me commande. Peshkov, marche. Dans sa cabine, il me lance un livre relié de cuir noir, puis il s'allonge sur sa couchette contre la paroi de la glacière. Lis. Je m'assieds sur une caisse de macaroni et je lis consciencieusement. Ombra cool, auréolée par les étoiles, signifie une communication facile avec le ciel. Smouri, qui a allumé une cigarette, souffle de la fumée et grommelle. Ces chameaux, en écrivent-ils. Un sein gauche découvert signifie l'innocence du cœur.
Le sein de qui?
Ça n'est pas indiqué.
Par conséquent d'une femme. Ah, les débauchés.
Il ferme les yeux et, les mains jointes sous la tête, il reste immobile. Sa cigarette fume à peine, collée au coin de ses lèvres. Il l'assujettit avec sa langue, aspire l'air avec une telle force que quelque chose siffle dans sa poitrine et son énorme visage se perd dans un nuage de fumée. Parfois, il me semble qu'il s'est endormi. Je m'arrête et j'examine ce maudit livre. Il m'ennuie à m'en donner des nausées. Mais Smouri râle. « Lis !» Le vénérable répond. « Vois, mon cher frère souverain !»«
Quelle diablerie ! Tout à la fin, c'est écrit en vers. Continue par la fin. »
J'obéis. Profane, curieux de connaître nos affaires, jamais vos yeux débiles ne les verront. Vous ne saurez même pas comment chantent les frères.
« Arrête !»
dit Smouri. « Quelle détestable poésie! Donne-moi ça !»
Irrité, il feuillette les grosses pages bleuâtres et fourre le bouquin sous sa paillasse.
« Prends-en un autre !»
Pour mon malheur, il possédait dans sa malle bardée de fer une quantité de livres. Il y avait là les exhortations d'Omyr, les mémoires d'un artilleur, les lettres de Lord Sédégal, de la punaise, insecte malfaisant, ainsi que de sa destruction avec des conseils pour l'application. Il y avait des livres sans commencement ni fin. Parfois, le cuisinier m'ordonnait de les mettre en ordre, de lui rappeler tous les titres. Il grommelait alors « Ils en inventent, ces racailles. Ils vous envoient des récits par la figure et on ne sait pas ce que ça signifie, Gervais. À quoi diable peut-il me servir, ce Gervais? Et Umbra Cool ?» Les mots étranges, les noms inconnus se gravaient dans ma mémoire, vibraient sur le bout de ma langue, m'obsédaient. À chaque instant, j'avais envie de les répéter. Peut-être le sens se découvrirait-il à la longue. Au dehors, l'eau chantait et clapotait inlassablement. Qu'il aurait fait bon à la poupe, là où les matelots et les chauffeurs se rassemblaient entre les caisses de marchandises, dépouillaient les passagers au jeu de cartes, chantaient des chœurs et se racontaient d'intéressantes histoires. Qu'il aurait fait bon s'asseoir avec eux, écouter des choses simples et compréhensibles en regardant les rives de la Cama, les sapins tendus comme des cordes d'airain, les prés où l'inondation avait laissé de petites lagunes, pareilles à des fragments de miroirs brisés où se reflétait le ciel bleu. Notre bateau était séparé de la terre. Il s'enfuyait loin d'elle. Et, dans la paix du jour fatigué, arrivait à nous le son des clochers invisibles, rappelant les villages et les gens. Une barque de pêche, semblable à une croûte de pain, se balance sur les vagues. Un hameau apparaît sur la berge. Une bande de gamins se baigne dans l'eau, et sur le sable jaune chemine un paysan en blouse rouge. De loin, vu de la rivière, tout paraît agréable, minuscule, bariolé et amusant comme un jouet. J'avais envie de crier au rivage et à la barque, des paroles amicales et caressantes. Car elle m'occupait beaucoup, la barque jaune. Pendant une heure entière, je pouvais la regarder sans me lasser, observer comme elle fendait les flots de sa proue émoussée. Le bateau la traînait comme une truie. Parfois, la remorque, faiblissant, battait l'eau, puis se tendait de nouveau, toute ruisselante de gouttelettes, et secouait la barque par l'avant. J'avais grande envie de voir le visage de ces gens parqués comme des fauves dans une cage de fer. À Perme, lorsqu'on les conduisit à terre, je me faufilai vers la passerelle de la barque. Quelques dizaines d'hommes en gris défilèrent devant moi, piétinant avec bruit, faisant résonner leurs chaînes, courbés sous le poids de leurs besaces. Il y avait des femmes et des hommes, des vieux et des jeunes, des beautés et des monstres, mais c'étaient des gens faits comme tout le monde, sauf qu'ils étaient vêtus autrement et qu'ils avaient les cheveux rasés, ce qui les défigurait. Évidemment, c'étaient des brigands. Mais grand-mère racontait tant de belles choses sur les brigands. Smouri, qui ressemblait plus que les autres à un féroce malfaiteur, grommelait en regardant la barque d'un air sombre. « Que Dieu nous préserve d'un sort pareil !» Une fois, je lui demandais « Comment cela se fait-il que vous vous occupiez de la cuisine et que d'autres tuent et volent ?» La seule différence entre les hommes, c'est le degré de leur bêtise. L'un est intelligent, l'autre moins, le troisième est complètement bête. Pour s'instruire, on doit lire des livres bien choisis. La magie noire et tout le reste. Il faut lire tous les livres. Alors on découvre ceux qui peuvent être utiles. À chaque instant, il me répétait,
Lis, lis beaucoup. Si tu ne comprends pas un ouvrage, relis-le 7 fois. Si tu ne le comprends pas encore, lis-le 12 fois. Avec tout le monde sur le bateau, sans même excepter le taciturne restaurateur, Smoury parlait d'une manière saccadée, la lèvre inférieure pendant dédaigneusement, les moustaches hérissées. On eût dit qu'il lançait des pierres à ses interlocuteurs. Vis-à-vis de moi, il était bon et attentif, mais il y avait dans cette attitude quelque chose qui m'effrayait. Parfois, il me semblait que le cuisinier était un peu fou, comme la sœur de grand-mère. Il me disait « Attends un moment !» Et il restait longtemps, les yeux fermés, à renifler. Son gros ventre s'agitait, ses doigts velus et brûlés, croisés sur sa poitrine comme ceux d'un mort, remuaient, tricotant avec d'invisibles aiguilles un invisible bas. Il fait chaud. Tout tremble doucement et résonne. L'eau jaillit contre la paroi métallique de la cabine. Sous le projecteur, le fleuve coule en une large bande. Au loin, on aperçoit des rives herbeuses où les arbres se dressent. L'oreille s'habitue à ces bruits. Elle ne perçoit plus rien, tout semble silencieux, et pourtant, à l'avant du bateau, un matelot crie désespérément « Sept ! Sept ! » Je ne me sens pas d'humeur à participer à quoi que ce soit. Je n'ai envie ni d'écouter ni de travailler. J'aimerais m'asseoir à l'ombre, dans un endroit que n'empesterait pas l'odeur grasse et tiède de la cuisine, d'où l'on pourrait regarder, à moitié endormi, cette vie lasse et atténuée glissant sur l'eau. « Lis !» m'ordonne l'autoritaire cuisinier. Les sommeliers des cabines le craignent, et même le paisible restaurateur, d'habitude muet comme un poisson. « Hé, cochon ! » crie-t-il au sommelier. « Arrive ici, voleur, asiatique !» Les matelots et les chauffeurs le traitaient avec une déférence obséquieuse. Ils leur donnaient la viande du pot-au-feu, les interrogeaient sur leur famille, sur leur village. On se querellait souvent, parfois jusqu'au cou, mais on ne touchait pas à Smoury. Il possédait une force herculéenne. De plus, la femme du capitaine causait souvent et amicalement avec lui. Elle était grande et grosse, de visage masculin, et portait des cheveux courts comme ceux d'un garçonnet. Smoury buvait de l'eau-de-vie par rasade, mais ne s'enivrait jamais. Il commençait dès le matin, vidant une bouteille en 4 gorgées. Et jusqu'au soir, il s'abreuvait de bière. Son visage se fonçait peu à peu. Ses yeux noirs s'élargissaient et prenaient une expression étonnée. Parfois, le soir, il s'asseyait, énorme et blanc, sur un escabeau, et il restait des heures entières, silencieux, le regard sombre fixé sur le lointain fuyant. À ces moments-là, on avait fort peur de lui. Et moi, je le plaignais. Je lui demandai une fois, « Pourquoi êtes-vous redouté de tout le monde? Vous êtes bon, cependant. » Contre mon attente, il ne se mit pas en colère. « C'est avec toi seul que je suis bon. » Mais il ajouta aussitôt, pensif et sincère, « Peut-être, en effet, suis-je bon pour tous. Seulement, je ne le montre pas. Il ne faut pas le montrer aux gens. » Sinon ils en abuseraient. On grimpe sur ceux qui sont bons, comme sur un bloc de terre sèche dans un marais, et on les piétine. Va chercher de la bière. » La bouteille vidée, verre par verre, il essuya ses moustaches et dit « Si tu étais plus grand, mon garçon, je t'aurais appris bien des choses. Je ne suis pas un imbécile, et j'en ai vu, et j'en sais de toutes sortes. Lis les livres. On doit y trouver tout ce qu'il faut. Ce n'est pas une bagatelle, les livres. Veux-tu de la bière ? Je ne l'aime pas. Bon, on n'en boit pas. L'ivrognerie, c'est un malheur. L'eau de vie vient du diable. Si j'étais riche, je t'aurais fait étudier. Un homme ignorant, c'est un bœuf. On peut l'envoyer à l'abattoir, on peut l'atteler aux joues, et il n'a qu'à se soumettre. » La femme du capitaine lui donna « La terrible vengeance » de Gogol. Je lus ce volume, qui me plut beaucoup, mais Smoury cria avec irritation « Quelle bêtise, c'est une invention! Il y a d'autres livres, je le sais. » Il me prit le volume, le rapporta à la femme du capitaine, qui lui en donna un autre. Il m'ordonna d'une voix sombre. « Lis Taras, je ne sais plus son autre nom. Elle dit que c'est beau. Beau pour qui? Pour elle, peut-être, mais peut-être pas pour moi. Elle s'est coupée les cheveux, mais elle ne s'est pas coupée les oreilles, hein ?» Quand Taras provoque Ostap à la lutte, le cuisinier eut un gros rire. « Ah, ce n'est pas mal. Ce qu'on imprime tout de même. Quel chameau !» Il écoutait attentivement, mais souvent il grommelait « Oh, quelle stupidité! On ne peut pas fendre un homme en deux, depuis les épaules jusqu'au ventre, c'est impossible. Et il n'est pas possible non plus de le soulever au bout d'une lance. Le bois se briserait. J'ai été soldat et je le sais. » La trahison d'André provoqua son dégoût. « Quel vilain type! Tout ça pour un jupon! Tfou !» Mais lorsque Taras tue son fils, le cuisinier s'assit sur sa couchette, les jambes pendantes, les deux mains posées sur le rebord, et, se courbant, il se mit à pleurer. Les larmes coulaient lentement de ses joues jusque sur le plancher, tandis qu'il reniflait et marmottait « Ah, mon Dieu! Mon Dieu !» Et soudain, il me hurla « Mais lis donc, fils du diable !» Il recommença à pleurer plus fort et plus amèrement encore lorsque Ostap s'écrie avant de mourir « Père, m'entends-tu ?»« Tout est perdu !» sanglota Smoury. « Tout est perdu ! C'est déjà fini ? Ah, quelle affaire ! Ah, ça, c'était des hommes, ce Taras, hein ? Ouais, ça, ce sont des hommes !» Il me prit le livre des mains et l'examina avec attention, laissant tomber des larmes sur la couverture. « Quel beau livre ! C'est une joie !» Ensuite, nous lûmes Ivanhoé. Richard Plantagenet plut beaucoup à Smoury. « C'est un vrai roi !» disait-il avec conviction. Quant à moi, le récit me parut ennuyeux. En général, nous avions des goûts différents. J'étais enthousiasmé par l'histoire de Thomas Jones, l'enfant trouvé. Smoury grommelait « Quelle fadaise! Que veux-tu que j'en fasse de ce Thomas? Il doit y avoir d'autres livres. » Une fois, je lui confiai ce que je savais. Il y avait d'autres livres, défendus, interdits. On ne pouvait les lire que la nuit dans les sous-sols. Il ouvrit de grands yeux, ses poils se hérissèrent. « Hein ? « Qu'est-ce que tu me chantes là ?»« Je ne mens pas. Le prêtre m'en a parlé à confesse, et j'avais déjà vu comment on les lisait, et en pleurant. » Le cuisinier me regarda d'un air morne et me questionna. « Qui est-ce qui pleurait ?»« La dame qui écoutait, et son lecteur s'est sauvé tant elle était effrayée. »« Réveille-toi, tu rêves !» dit Smoury en fermant lentement les paupières. Après un moment de silence, il murmura « Évidemment, il doit y avoir quelque part quelque chose de caché. » Sans m'en apercevoir, je m'habituai à lire et je prenais volontiers un livre, car ce que je lisais tranchait agréablement avec ma vie, qui devenait de plus en plus pénible. Smoury, toujours plus entraîné, lui aussi par la lecture, m'arrachait à mon travail. « Pechkov, viens lire. »« J'ai beaucoup de vaisselle à laver. »« Maxime le fera. » D'une voix rude, il envoyait celui-ci accomplir ma besogne. Pour se venger, Maxime cassait des verres et le restaurateur me prévenait d'un ton paisible « Je te ferai descendre du bateau. » Une fois, Maxime plaça avec intention plusieurs verres au fond d'un baquet plein d'eau sale et de thé. Lorsque je vidai le baquet par-dessus bord, les verres suivirent le chemin des lavures.
« C'est de ma faute !» dit Smoury au restaurateur. « Mettez ça à mon compte !»
Le personnel du restaurant commença à me regarder de travers. On me disait « Eh, là-bas, l'amateur de bouquins, on te paie pour quoi faire ?» Et on s'efforçait de me donner le plus de travail possible. On salissait de la vaisselle sans nécessité. Je sentais que tout cela finirait mal pour moi, et je ne me trompais pas. Un soir, à un petit débarcadère, nous vîmes monter à bord une commère au visage empourpré, accompagnée d'une jeune fille en fichu jaune et en corsage rose tout neuf. Toutes deux étaient un peu grises. La femme souriait, saluait tout le monde et disait « Excusez, mes bonnes gens, j'ai un peu bu. On m'a jugée, on m'a acquittée, et alors, dans ma joie, vous comprenez, j'ai bu un verre. » La jeune fille riait aussi. Elle regardait les gens d'un œil vague et poussait la femme. « Avance, avance, Nigaud !» Elles s'installèrent près du pont des deuxièmes, en face de la cabine où dormaient Sergueï et Jacob Ivanitch. La femme disparut bientôt, on ne sait où. Sergueï, la bouche largement fendue, s'assit à côté de la jeune fille. La nuit, ma besogne achevée, comme j'allais me coucher sur la table, Sergueï s'approcha de moi et me prit par le bras.
« Viens, nous allons te marier !»
Il était gris. J'essayai de me dégager, mais il me frappa.
« Viens !»
Maxime accourut, ivre lui aussi. Et à deux, devant les passagers endormis, ils me traînèrent sur le pont jusqu'à leur cabine. Mais à la porte se tenait Smoury, et sur le seuil, s'accrochant au montant, je vis Jacob Ivanitch et la jeune fille qui lui donnaient des coups de poing dans le dos et hurlaient d'une voix avinée
« Laissez-moi !»
Smoury m'arracha des mains de Sergueï et de Maxime. Il les prit par les cheveux, et après avoir heurté leurs têtes l'une contre l'autre, il les lança de côté. Tous deux tombèrent.
« Asiatique !» dit-il à Jacob.
Il lui ferma la porte au nez, puis il m'ordonna d'une voix de tonnerre et en me poussant
« Va-t'en !»
Je m'enfuis à l'arrière. La nuit était nuageuse et le fleuve noir. Derrière nous bouillonnaient deux sentiers grisâtres qui s'étendaient vers les rives invisibles, et entre ces sentiers se traînait la barque. Tantôt à droite, tantôt à gauche, apparaissaient les taches rouges des feux qui, sans rien éclairer, disparaissaient aux contours inattendus du fleuve. Alors la nuit semblait plus noire, et je me sentais encore plus malheureux. Le cuisinier survint, s'assit à côté de moi, poussa un profond soupir et alluma une cigarette.
Il voulait te mener vers cette fille.
Ah, les brigands! Je les ai entendus quand ils manigançaient leur projet.
Vous la leur avez enlevée?
Elle? Il prononça quelques grossières injures à l'adresse de la jeune fille, puis il continua d'une voix convaincue.
« Ici, il n'y a que des canailles. Ce bateau est pire encore qu'un village.
As-tu vécu à la campagne ?»«
Non. »«
La campagne, c'est de la vraie pourriture. En hiver, surtout. » Lançant la cigarette par-dessus bord, il se tut. Au bout d'un moment, il reprit.
« Tu péris dans cet étable à porc, mon petit. Tu me fais pitié.
Et tous me font pitié. Parfois... je ne sais pas ce que je ne ferai pas. Je serai capable de m'agenouiller et de leur dire « Que faites-vous donc, coquin? Êtes-vous des aveugles ?» Ah, les chameaux!
Le bateau pousse un rugissement prolongé. La remorque frappe l'eau. Dans l'ombre épaisse, le feu d'une lanterne se balance et indique où se trouve le débarcadère.
D'autres clartés encore surgissent des ténèbres.
« C'est Pianibor, » grommela le cuisinier.
« Je vais à terre. » Les robustes femmes des bords de la Kama nous apportaient du bois sur de longs brancards. Courbées sous le fardeau, elles avançaient, souple et en cadence, deux par deux, vers la cale de la chaufferie, et jetait dans le trou noir une grosse charge de bûches. Au passage, les matelots les prenaient à la jambe, à la poitrine. Les femmes glapissaient, crachaient sur les hommes. Quand elles revenaient, débarrassées de leur charge, elles se défendaient avec leurs brancards contre ceux qui voulaient les pincer et les pousser. Je revoyais cette scène à chaque voyage, à chaque débarcadère, toutes les fois que nous faisions du bois. Il me semblait que j'étais vieux, que je vivais sur ce bateau depuis des années et que je connaissais tout ce qui pouvait s'y passer. Demain, dans une semaine, en automne, l'an prochain. Le jour se levait. Sur une éminence sablonneuse, au-dessus du débarcadère, se profilait une puissante forêt de sapins. Les femmes grimpaient la pente, allant au bois. Elles riaient et chantaient. Armées de leurs brancards, elles ressemblaient à des soldats. J'avais envie de pleurer. Les larmes bouillonnaient dans ma poitrine. Elles me gonflaient le cœur. Je souffrais. Mais j'avais honte de pleurer, et j'aidais le matelot Blakin à laver le pont. C'était un petit homme modeste, tout éteint, décoloré. Il se cachait sans cesse dans les coins, d'où l'on voyait briller ses petits yeux. Tout en traînant son balai sur le pont, il disait à mi-voix « Tu as vu comment on les arrange, les femmes, hein ?»« Oui, mais quand on chauffe longtemps le bois vert, il finit lui aussi par prendre feu. Je n'aime pas ça, mon petit, ça ne me plaît pas. Si j'avais été une femme, je me serais noyée dans un marais profond. » La femme du capitaine passa devant nous en relevant sa jupe pour éviter les flaques d'eau. Elle se levait toujours de grand matin. Grande, robuste, elle avait un visage si clair, si simple, que j'avais envie de courir à elle et de lui demander de toute mon âme « Dites-moi donc quelque chose, je vous en prie. » Le bateau s'écarta lentement du débarcadère et Blakin dit en se signant « Nous voilà partis. » Chapitre 9. À Sarapoul, Maxime, congédié par le capitaine, quitta le bateau. Il partit sans prévenir personne, sans prendre congé, tranquille et grave. Il fut suivi de la femme, toujours gaie et avenante, et de la jeune fille aux vêtements fripés, aux yeux habituellement gonflés. Quant à Sergueï, il resta longtemps agenouillé devant la cabine du capitaine. Il baisait le bois de la porte, s'y frappait le front et gémissait « Pardonnez-moi, je ne suis pas coupable, c'est Maxime !» Les matelots, les sommeliers, quelques passagers même, savaient qu'il mentait. Mais ils lui disaient néanmoins « Continue, continue, il t'excusera !» Le capitaine lui ordonna de déguerpir. Il le poussa même du pied avec tant de vigueur que Sergueï tomba à la renverse. Il finit tout de même par lui pardonner. Et Sergueï se mit immédiatement à courir sur le pont, portant les plateaux avec les tasses à thé. Pareil à un chien, il regardait les gens dans les yeux d'un air quémandeur. Le changement continuel du public ne modifiait en rien la vie du bateau. Les nouveaux passagers parlaient des mêmes choses que ceux qui les avaient précédés, de la terre, du travail, de Dieu, des femmes. Mêmes sujets de causerie, mêmes expressions. Le Seigneur a décidé que l'homme doit souffrir, et l'homme n'a plus qu'à souffrir. Il n'y a rien à faire, c'est notre sort. Ces paroles découragées m'exaspéraient. Je n'aime pas la boue. Je me révolte contre le mal, l'injustice, les outrages dont je suis victime. Je sens nettement que je ne les mérite pas. Je me demande parfois comment des gens aux instincts violents, féroces, peuvent obéir si facilement aux ordres de matelots qui les interpellaient avec brutalité. « Pourquoi vous entassez-vous contre le bord ?» crie le pilote en fermant à moitié ses yeux, qui sont beaux mais vindicatifs. « Vous faites pencher le bateau. Allez-vous-en d'ici, démon. »
Les démons s'en vont humblement de l'autre côté, d'où on les chasse comme des moutons.
Ah, maudit!
Par les nuits brûlantes, sous la tôle de la tente que le soleil a chauffée à blanc, on étouffe. Les passagers s'éparpillent sur le pont comme des blattes et se couchent n'importe où. Quand un débarcadère est en vue, les matelots les réveillent à coups de pied.
Hé, que faites-vous là sur notre chemin? Allez à vos places!
Ils se lèvent et, tout ensommeillés, ils se dirigent vers le côté indiqué. Les matelots sont des gens comme eux, mais habillés d'une manière différente, et ils commandent comme s'ils étaient des agents de la police. Ce qu'on remarque tout d'abord chez les gens, c'est la timidité, la tranquillité, la soumission mélancolique. Et il est à la fois étrange et terrifiant de voir tout à coup cette écorce d'obéissance livrer passage à la frénésie cruelle, incohérente et presque toujours dépourvue de gaieté. Il me semble que les gens ne savent pas où on les mène, qu'il leur importe peu de choisir le lieu où ils descendront du bateau. Où que ce soit qu'ils débarquent, ils ne resteront pas longtemps sur le rivage. Ils remonteront bientôt sur ce bateau ou sur un autre, et s'en iront de nouveau on ne sait où. Ils ont l'air de vagabonder, d'être égarés, de n'avoir ni feu ni lieu. La terre entière leur est étrangère, et ils sont tous poltrons au suprême degré. Une nuit, vers 2 heures du matin, quelque chose sauta dans les machines, avec une détonation pareille à celle d'un canon. Le pont se couvrit immédiatement d'un nuage de vapeur blanche qui sortait en masse épaisse de la cale aux machines et s'échappait de toutes les fentes. Quelqu'un d'invisible cria d'une voix assourdissante « Gavrilo ! Hé, Gavrilo !» Je dormais près de cette cale, sur la table où je lavais la vaisselle. Lorsque je me réveillais sous la secousse et la détonation, tout était silencieux sur le pont. Une vapeur brûlante sifflait dans la machinerie, les pistons martelaient à coups fréquents. Mais l'instant d'après, tous les voyageurs du pont se mirent à gémir, à hurler sur des tons différents, et du coup, je fus angoissé. Dans le brouillard blanc, qui se dissipait rapidement, des femmes en cheveux, des hommes dépenaillés, aux yeux ronds comme ceux des poissons, se démenaient et tombaient les uns sur les autres. Tous traînaient des paquets, des sacs, des malles. Trébuchant et haletant, ils invoquaient Dieu, Saint Nicolas le thaumaturge. Ils se battaient. C'était vraiment terrifiant, mais captivant aussi. Je suivais ces gens et regardais ce qu'ils faisaient. Je voyais pour la première fois une panique nocturne, et je compris immédiatement que les passagers s'effrayaient sans raison. Le bateau ne ralentissait pas son allure. Sur la droite, tout près, brillaient des foyers des faucheurs. La nuit était claire, la lune pleine et très haut dans le ciel. Sur le pont, on s'agitait de plus en plus. Les passagers des cabines s'y précipitèrent. Quelqu'un sauta par-dessus bord, un autre le suivit, puis un troisième. Munis d'une bûche, deux hommes et un moine essayaient d'arracher un banc vissé au pont. À l'arrière, on lança à l'eau une grande cage remplie de poules. Au milieu du pont, à côté de l'échelle menant à la plateforme du capitaine, un paysan s'était agenouillé, et, faisant la révérence à ceux qui passaient, il hurlait comme un loup « Je suis un grand pêcheur, bonnes gens !»« Un canot ! Un canot !»
criait un gros monsieur, sans chemise, vêtu seulement d'un pantalon. Il se frappait la poitrine avec ses poings. Les matelots couraient, prenaient les gens au collet, les souffletaient, les jetaient sur le plancher. Un pardessus passé sur sa chemise de nuit, Smouri allait et venait lourdement. De sa voix retentissante, il réprimandait tout le monde.
« Vous n'êtes pas honteux? Pourquoi perdre la tête comme des poules? Le bateau marche et vous voyez bien la rive. Les imbéciles qui ont sauté à l'eau et que les faucheurs ont repêché, les voilà, vous voyez bien ces deux canots. »
Quant aux voyageurs de troisième classe, il leur assénait un coup de poing sur la tête, de haut en bas, et ils s'effondraient, sans mot dire, comme des sacs. Le vacarme ne s'était pas encore apaisé qu'une dame en pèlerine, armée d'une cuillère à soupe, se précipita vers Smouri et se mit à glapir, en brandissant la cuillère sous le nez du cuisinier. « Comment oses-tu me parler ainsi ?» Un monsieur tout mouillé la retenait en suçant ses moustaches, et il disait avec dépit et ennui « Laisse-le donc, cet abruti !» Smouri laissa tomber les bras, clignota d'un air embarrassé et me demanda « Qu'est-ce que cela veut dire, hein ? Pourquoi saute-t-elle sur moi ? Grand merci, c'est bien la première fois que je la vois. » Et un petit paysan gémissait en crachant du sang. « Ça ? Des gens ? Oh, les brigands !» En été, je fus témoin de deux paniques sur le bateau, et elles furent l'une et l'autre provoquées non pas par un danger direct, mais par la peur de sa possibilité. Une autre fois, pendant le jour, les voyageurs attrapèrent deux voleurs. L'un était vêtu en pèlerin, en cachette des matelots, ils les battirent pendant près d'une heure, et quand l'équipage délivra les larrons, le public couvrit les matelots d'injures. « Les loups ne se mangent pas entre eux, on le sait bien. »« Vous êtes des fripouilles vous-même, c'est pour cela que vous prenez la défense des fripouilles. » Les deux voleurs avaient presque perdu connaissance. Ils pouvaient à peine se tenir debout lorsqu'on les remit à la police, au prochain débarcadère. Beaucoup d'autres choses me troublaient et m'empêchaient de comprendre la mentalité de tous ces gens, de me rendre compte s'ils étaient méchants ou bons, paisibles ou révoltés, et surtout pourquoi ils passaient si vite de la fureur cruelle à l'humble soumission. J'interrogeais le cuisinier, mais il s'enveloppait de fumée avec sa cigarette, et il répondait le plus souvent à contre-cœur « Les gens, eh bien, ce sont les gens. L'un est intelligent, l'autre est un imbécile. Tu en poses des questions. Tu ferais mieux de lire des livres au lieu de ruminer. Dans les livres bien écrits, tout ça doit être expliqué. » Souvent, il répétait « Eh, il faudrait pouvoir t'envoyer à l'école. Tu n'es pas à ta place ici. » Je le sentais aussi. Sergueï se conduisait fort mal envers moi. À plusieurs reprises, j'avais remarqué qu'il m'enlevait de la table des services à thé et qu'il servait les voyageurs en cachette du restaurateur. Je savais que c'était un vol. Smouri m'avait prévenu plus d'une fois. « Prends garde, ne donne pas de ta vaisselle au sommelier. » Que de choses pénibles pour moi. Souvent, j'avais envie de m'enfuir au premier arrêt, de m'enfoncer dans la forêt. Seul Smouri me retenait. Il se montrait toujours meilleur envers moi, et le mouvement continuel du bateau m'enchantait, étrangement. Je n'aimais pas les stations au débarcadère. J'espérais sans cesse qu'il arriverait quelque chose et que nous allions voguer de la Kama à la Rivière Blanche, à la Viatka ou à la Volga même, et que je verrais de nouveaux rivages, d'autres villes et d'autres gens. Mais rien de tout cela ne se réalisait. Ma vie sur le bateau fut coupée d'une façon inattendue et honteuse pour moi. Un soir, comme nous étions entre Kazan et Nijni Novgorod, le restaurateur m'appela dans sa cabine. J'entrai, il ferma la porte sur moi et dit à Smouri qui était assis, l'air maussade, sur un pouf, « Voilà. » Smouri me demanda brutalement, « Tu donnes des couverts à Sergueï ?» « Il les prend lui-même quand j'ai le dos tourné. » Le restaurateur dit à mi-voix. « Il ne le voit pas, mais il le sait. » Smouri se donna un coup de poing sur le genou, qu'il se gratta ensuite en disant « Attendez, vous avez le temps. » Et il se mit à réfléchir. Je regardai le restaurateur, il me regardait aussi. Mais il me sembla qu'il n'avait pas Dieu derrière ses lunettes. Il vivait sans bruit, marchait sans bruit et parlait à voix basse. Parfois, sa barbe décolorée et ses yeux vides surgissaient on ne savait d'où et disparaissaient immédiatement. Avant de se coucher, il s'agenouillait longtemps à l'office devant l'icône. Je le guettais à travers un guichet de la porte qui était découpé en forme de cœur. Mais je ne réussis jamais à voir comment le restaurateur priait. Il restait simplement agenouillé, contemplait l'image et la lampe éternelle, soupirait et lissait sa barbe. Après un moment de silence, Smouri demanda « Sergueï t'a-t-il donné de l'argent ?»«
Non. Jamais ?»«
Non, jamais. » »«
Il ne ment pas, » dit le cuisinier au restaurateur. Celui-ci murmura « Peu importe, je vous en prie. »
« Allons, acceptons cela !» me cria Smouri. Il s'approcha de ma table et me donna une petite chiquenaude amicale à la tempe.
« Nigo, je suis aussi un imbécile. J'aurais dû avoir l'œil sur tout cela. »
À Nijni, le restaurateur me congédia. Je touchai à peu près 8 roubles, la première grosse somme que j'ai gagnée. Quand je lui fis mes adieux, Smouri me dit tristement « C'est fini. » Et maintenant, ouvre l'œil, comprends-tu? Il ne faut pas bâiller aux corneilles. Il me glissa dans la main une blague à tabac brodée de perles.
Tiens, voilà pour toi. C'est un joli ouvrage. C'est ma marraine qui me l'a fait.
Eh bien, adieu. Lis les livres, c'est ce qui vaut le mieux. Il me prit sous les aisselles, me souleva, m'embrassa et me reposa lentement sur le plancher. J'avais pitié de lui et de moi aussi. Je faillis me mettre à hurler en le voyant grand, lourd, triste, retourner au bateau et se frayer un passage entre les portefaix. Combien peu en ai-je rencontré par la suite de ces gens pareils à lui, bons, solitaires, détachés de la vie. Chapitre 10. Mes grands-parents étaient retournés en ville. J'arrivais chez eux dans un état d'esprit combatif et irrité. J'avais le cœur gros. Pourquoi m'avait-on traité comme un voleur? L'accueil de grand-mère fut affectueux. Elle s'en alla immédiatement préparer le samovar. Sarcastique, comme à l'ordinaire, grand-père s'informa. « As-tu amassé beaucoup d'or ?»«
Ce que j'ai est tout à moi. »
répondis-je en m'asseyant à la fenêtre. Avec solennité, je sortis de ma poche une boîte de cigarettes et je me mis à fumer gravement.
« Ah ah !»
fit grand-père, tout en suivant de l'œil mes faits et gestes. « Voilà où nous en sommes. Tu fumes de l'herbe du diable. N'est-ce pas un peu tôt ?»«
On m'a fait cadeau d'une blague. »
« Une blague ?» glapit grand-père.
« Tu te moques !»
Il se jeta sur moi en étendant ses bras minces et robustes. Ses yeux verts étincelaient. Je bondis et fonçai la tête en avant. Atteint au ventre, le vieillard s'assit sur le sol, et pendant quelques longues secondes, il me fixa en clignotant d'un air stupéfait. Sa bouche noire était entr'ouverte. Puis il me demanda avec calme
« C'est toi qui m'as poussé ?
Moi, ton grand-père ? Le père de ta mère ?
Vous m'avez assez battu,
murmurai-je, comprenant que j'avais fort mal agi. Souple et léger, grand-père se leva, s'assit à côté de moi, m'arracha ma cigarette d'un geste adroit, la jeta par la fenêtre et dit d'une voix effrayée
« Petit sauvage, comprends-tu que Dieu ne te le pardonnera jamais ?
Mère ! Continua-t-il en s'adressant à sa femme. « Écoute donc, il m'a frappé. Lui, il m'a frappé. Interroge-le. » Elle ne me questionna pas, mais elle s'approcha tout simplement de moi, me prit par les cheveux et me secoua tout en disant « Eh bien, voilà pour toi. Voilà pour toi. » Elle ne me faisait pas mal, mais j'étais indiciblement honteux, mortifié surtout par le ricanement caustique de grand-père. Il sautillait sur sa chaise, se frappait les genoux et piaillait
« Oui, comme ça, comme ça !»
J'échappai à grand-mère et courus dans l'antichambre, où je me couchais, écrasé, vidé. j'entendais chanter le samovar. Grand-mère vint. Elle se pencha vers moi et chuchota tout bas. « Pardonne-moi, je ne t'ai pas fait mal, j'ai fait attention. Mais je ne pouvais agir autrement. Le grand-père est un vieillard, il faut le respecter. Il a eu aussi ses misères. Il a le cœur rempli de chagrin, il ne faut pas l'humilier. Tu n'es pas un petit garçon, tu dois comprendre ça. Il faut comprendre les choses, Alexis. » Ces paroles me lavaient comme de l'eau chaude. Ce chuchotement affectueux faisait naître en moi à la fois de la honte et du soulagement. J'étreignis grand-mère avec violence, nous nous embrassâmes. « Va vers lui, va, mais ne recommence pas à fumer tout de suite, laisse-lui le temps de s'habituer. » Je rentrai dans la chambre, je jetai un coup d'œil sur le grand-père et faillis éclater de rire. Il était heureux comme un enfant. Il rayonnait, il balançait les jambes et tambourinait sur la table avec ses pattes couvertes de poils roux. « Ah, voilà le bouc! Tu veux de nouveau donner des coups de corne ? Ah, brigand ! Le portrait de son père, un franc-maçon. Il entrait, il ne se signait pas et il se mettait tout de suite à fumer. Ah, espèce de Bonaparte !» Je gardai le silence. Le soir, lorsqu'il s'assit pour lire ses psaumes, je m'en allai avec grand-mère par la campagne. La petite hutte à deux fenêtres où vivaient mes grands-parents était située aux confins de la ville, sur les derrières de la rue des Cordiers, dans laquelle, jadis, grand-père avait possédé une maison. « Voilà où nous avons échoué, » dit grand-mère en souriant. « Le bonhomme n'arrive pas à trouver un endroit où il soit tranquille. Il ne fait que déménager. » Ici non plus, il ne se plaît pas. Moi, j'y suis bien. Devant nous s'étend sur 3 kilomètres la grande route de Kazan. Campagne aride, coupée de ravins, bordée par une ceinture de forêt et par une rangée de bouleaux. Pareils à des cornes, les rameaux d'aubépines émergent des ravins. Les rayons du crépuscule glacé leur donnent une couleur de sang. Un vent léger balance les brins d'herbe grise. Au-delà du premier ravin, dansent les silhouettes noires des filles et des garçons du faubourg. Au loin, à droite, se dressait le mur rouge du cimetière des vieux croyants. On l'appelait l'ermitage de Bougrof. À gauche, au-dessus du ravin, un groupe d'arbres faisait tache sur le ciel. C'était le cimetière juif. Autour de nous étaient pauvres. Tout se serrait en silence contre la terre éventrée. Les petites chaumières des extrémités de la ville regardaient timidement par leurs fenêtres la route poussiéreuse où erraient des poules chétives et mal nourries. Près du couvent d'Ievitchi, un troupeau broutait. Les vaches meuglaient. De la caserne arrivait l'écho de la musique militaire. Les trompettes de cuivre rugissaient et tonnaient. Je raconte à grand-mère ma vie sur le bateau, et je regarde autour de moi. Après ce que j'ai vu, je me sens triste ici, un peu comme un poisson dans la poêle. Attentive et silencieuse, grand-mère écoute, comme j'aime à l'écouter. Quand je lui parle de Smouri, elle se signe avec ardeur et déclare « Quel brave homme ! Que la Vierge lui soit en aide. Quel brave homme! Prends garde, ne l'oublie pas. Rappelle-toi toujours ce qui est bien et bon. Ce qui est mal, oublie-le, tout simplement. » Il me fallut un grand effort pour lui raconter la cause de mon renvoi. Mais, rassemblant tout mon courage, j'y parvins. L'histoire ne lui fit aucune impression. Elle se contenta de remarquer avec indifférence « Tu es encore jeune, tu ne sais pas vivre. » Les gens se disent tous les uns aux autres « Tu ne sais pas vivre. Quelle est donc cette science ?» Avec une grimace, elle hocha la tête. « Ça, par exemple, je n'en sais rien. » « Alors, pourquoi en parles-tu ?»« Et pourquoi pas ?» répliqua-t-elle tranquillement. « Ne t'emporte pas. Tu es encore petit. Tu n'as pas besoin de savoir. Et puis, qui est-ce qui sait vivre? Peut-être les fripons. Tu vois, le grand-père, il est intelligent, il est instruit, et pourtant il n'a rien su faire.
Mais toi, tu sais la vie, et la belle vie.
Moi, j'ai mal vécu aussi. J'ai vécu de toute manière. Les gens passaient à côté de nous sans se presser, traînant derrière eux de longues ombres que brouillait la poussière soulevée par leurs pieds. La mélancolie du soir s'étendait, toujours plus impressionnante. Par la fenêtre arrivait la voix sourde de grand-père.
« Seigneur, que ton courroux ne descende pas sur moi, que ta colère ne me châtie pas. »
Grand-mère me dit en souriant, « Il ennuie sûrement le bon Dieu, tous les soirs il se lamente, et à quoi bon? Il est déjà vieux, il n'a plus besoin de rien, et il ne fait que geindre et se plaindre. Le bon Dieu, qui écoute les voix du soir, doit se divertir et penser, « Voilà Vassili Kachirine qui s'égosille de nouveau. » Viens, allons nous coucher. »